Cap Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap Cap avec...
Gilles Vincent.
Depuis des lustres, le conflit du Moyen-Orient occupe sporadiquement le devant de la scène médiatique avec un scénario jusqu'ici immuable. D'un côté, Israël et son allié américain. De l'autre, les Palestiniens avec les pays arabes. Une immense région de plus de 7,5 millions de mètres carrés, 15 États qui comptent 420 millions d'habitants, répartis pour beaucoup dans les trois pays les plus peuplés de la région, à savoir l'Égypte, l'Iran et la Turquie. Et des richesses en pétrole et en gaz assez inégalement réparties. Une région qui focalise les attentions intéressées des pays les plus influents de la planète, qui y disposent de bases militaires, essentiellement les États-Unis, la France et la Russie. Mais depuis la catastrophique intervention américaine pour abattre Saddam Hussein et l'apparition de Daesh, prenant le relais d'Al-Qaïda tout en concurrençant cette organisation, les schémas d'analyse anciens sont totalement bousculés. À vrai dire, même la situation est devenue d'une complexité telle qu'il devient parfois impossible de s'y retrouver. Un diplomate, fin connaisseur de la région, a eu cette phrase qui résume parfaitement le problème. Si vous comprenez quelque chose au Moyen-Orient, c'est que l'on vous l'a mal expliqué. Et de fait, entre les printemps arabes dans différents pays, les interventions musclées des pays européens ou des USA, les guerres civiles irakiennes et syriennes qui ont fini par s'internationaliser, l'arrivée dans le jeu syrien de l'Iran et de la Russie, une guerre au Yémen qui ruine ce pays déjà exsangue et provoque des milliers de morts sans que l'Occident s'en émeuve, la situation paraît être devenue inextricable. Et quand un Donald Trump vient semer sciemment la zizanie par des déclarations provocatrices, reconnaissant Jérusalem comme la capitale d'Israël, la confusion est à son comble. Mais au milieu de ce magma de pays, de situations, d'intérêts divers, de haines recruites, de croyances diverses, une chose émerge à l'évidence. Le traditionnel conflit entre la Palestine et Israël est en passe de devenir secondaire, voire dépassé. Israël sont renforcés de la situation, sa position diplomatique dans le monde est meilleure que jamais, et l'arrivée de Trump au pouvoir, assisté par son gendre, le riche juif pratiquant Jared Kushner, fut pour le pays une divine surprise. Netanyahou partage avec les deux hommes une vision occitalo-centrée, et de ce fait, ce qui est aujourd'hui devenu primordial, c'est la confrontation avec un islam gagné par l'extrémisme politique. C'est là qu'est la nouvelle ligne de partage de ce monde. Les Palestiniens, affaiblis par des guerres fratricides, n'intéressent plus grand monde, et en tout cas Israël, ne va plus manifester beaucoup d'intérêt pour un règlement diplomatique du problème et devrait poursuivre aussi tranquillement qu'imperturbablement sa politique de colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem. À présent, la ligne de partage passe entre ceux qui sont pro-iraniens et les autres. Et cet Iran et les frères musulmans, bien évidemment, inquiètent tellement les monarchies sunnites du Golfe qu'elles ne se cachent plus des liens qu'elles ont noués avec Israël et qu'elles renforcent à toutes les occasions, même si l'on est discret pour sauver les apparences et les réticences de la frange religieuse et conservatrice de certaines couches de la population. La monarchie sunnite saoudienne, en pleine transformation et ouverture, sur un certain nombre de plans, pas sur tous, veut s'imposer comme la puissance régionale. Et pour cela, elle doit contrer les visées expansionnistes de l'Iran chiite, un pays qui, au surplus, n'est pas arabe. C'est dire si le débat sur l'accord nucléaire passé avec l'Iran et que veut dénoncer l'inconséquent Trump prend une place majeure dans le débat protéiforme qui agite la région. Pour autant, Israël, à long terme, ne pourra s'affranchir d'un accord durable avec les Palestiniens si ce pays veut vraiment trouver sa place au Moyen-Orient. Cela étant dit, nous recevons ce jour sur Occitanie Première un écrivain, un adepte du roman noir, pour l'instant, nous allons voir la suite, un homme qui écrit bien et juste, un auteur qui est un oiseau rare dans le paysage littéraire, Jules Jean, il vit de sa plume. Bonjour Gilles Vincent.
Bonjour.
Alors Gilles Vincent, pourquoi vous êtes venu à l'écriture? Comment ça vous a pris?
Gilles Vincent qui survit de sa plume.
On va y venir, un peu de rhume dans le studio.
Désir et nécessité. Enfin, j'ai été habité depuis très longtemps par l'envie d'écrire et de raconter des histoires.
Habité?
Ah ouais. Et puis font voilà.
Le enfin, double m'habite, le trouble m'habite, c'est vrai. Le doute. Enfin bon.
Et ben là, non, la littérature m'habite. Et de fait, c'est vrai que quand on aime les livres et qu'on aime raconter des histoires, à un moment donné, il faut passer à l'acte. Donc je suis passé à l'acte il y a 10 ans avec un premier roman qui s'appelait Djebel, qui était un polar qui trouvait ses racines pendant la guerre d'Algérie et qui met en scène pour la première fois un personnage récurrent qu'on retrouve dans tous mes polars ou romans noirs. C'est la somptueuse, charmante, la commissaire Aïcha Sadia. Voilà.
Donc d'entrer un personnage.
Oui.
Alors pourquoi une femme ?
Parce que il y a quelques années auparavant, j'avais une amie à Marseille, j'habitais Marseille et j'étais très lié avec une jeune capitaine de police qui ne se prénommait pas Aïcha mais qui était algérienne d'origine et qui malheureusement a perdu la vie lors d'un braquage par des braquassés dans une poste du 13e arrondissement. Et elle a pris une balle, elle est morte, elle avait 31 ans. J'ai eu, comme beaucoup de gens qui la connaissaient, beaucoup de peine. Et puis quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, oh toi ma belle, je vais te faire vivre très longtemps. Et voilà la raison, les fondements même du personnage d'Aïcha Sadia.
Et des commissaires Aïcha. Oui.
Ouais.
Et donc ça vous est venu, je ne vais pas dire sur le tard, vous êtes encore un tout jeune homme, mais enfin bon, vous avez attendu d'avoir une certaine maturité, pas des cheveux blancs, et pour cause, puisqu'en studio ça ne se voit pas. Ouais.
Mais j'avais presque, vous avez raison, j'avais presque 50 ans quand j'ai publié mon premier roman.
Oui, oui.
Parce qu'avant, j'étais pris, c'est la vie, on est pris par des urgences, des priorités qui ne nous laissent pas forcément le temps. Il faut remplir le frigo, il faut élever ses enfants, il faut... on est coincé.
Il faut du temps pour écrire, il faut de la sérénité, il faut un climat particulier.
C'est d'abord une décision, enfin pour moi, hein, ça a d'abord été ça. Ça a d'abord été une décision, c'est-à-dire que, un peu comme quand quelqu'un veut changer de boulot, on prend une décision de changement professionnel. Et moi j'ai dit, je veux devenir romancier ou écrivain, c'est une décision. Et à partir de là, ma vie a changé, c'est-à-dire que je suis passé, j'étais... Voilà, cadre dans une... Enfin, je gagnais bien ma vie. J'avais une vie, on va dire, classique, mais plutôt cool, assez aisée, en fait. Et d'un seul coup, j'ai plongé dans la joie de l'écriture et j'ai découvert un peu la précarité.
Les joies de la galère.
On va plus au ski. Enfin, voilà, mais c'est pas grave, en fait.
T'es curieux d'avoir fait cette démarche parce que c'était un âge, quand vous avez commencé à écrire, où on aime bien un peu la sécurité, la tranquillité.
Ouais, mais moi, la sécurité, elle passe par le plaisir. Et voilà, je pense que ce que je faisais avant finissait par me lasser. Et puis voilà, c'est tellement jouissif pour moi d'écrire que ça, voilà, ça vaut le coup.
Alors, vous avez dit, Gilles Vincent, c'est une décision, j'ai décidé que... Mais décider, c'est une chose. Après, il faut pouvoir. Tout le monde peut écrire, mais il faut encore faut-il
d'accord.
pouvoir raconter une histoire cohérente, bien le faire, ouais. intéresser les gens, avoir du contenu, de la substance.
C'est la raison
la
pour
chair.
Laquelle j'ai d'abord décidé d'essayer. avant, enfin, je veux dire, quand je dis j'ai décidé d'être, je mens. J'ai décidé de voir si je pouvais être ou d'essayer. Et donc, pendant 2 ans, j'ai... appris à écrire, j'ai écrit des textes courts, j'ai réfléchi à ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, comment construire un récit. Enfin, puis à un moment donné, je me suis jeté à l'eau parce que je me sentais un peu plus armé et j'ai écrit Djebel, et qui est un roman qui se vend toujours bien, qui est toujours bien accueilli, qui est traduit dans 3 pays et qui rampe en Grèce, à Riga, donc en Lettonie, et
oui.
au Japon.
Et ah, donc, c'est bien, au Japon.
Ouais, c'est rigolo. Hein. Et donc, c'est un bouquin qui, voilà, c'est mon premier roman, mais qui marche toujours bien. Donc, j'ai bien fait, en fait.
Pour un coup d'essai, c'était un coup de maître.
J'étais content, en fait. Ça m'a mis en confiance. Parce que c'est vrai que quand on décide de changer d'activité, quelle que soit l'activité, il y a un temps de mise en confiance. C'est pas évident. Surtout sur quelque chose aussi étrange que l'écriture. Qu'est-ce qui donne confiance ? Il y a 2 choses, pour moi, qui me donnent confiance. Le fait d'aller jusqu'au bout d'un projet, ça donne confiance. Et le fait, ce qu'on reçoit après des lecteurs, des gens qui aiment, qui ont envie de partager, qui sont contents d'avoir partagé, qui attendent le prochain, qui le demandent parfois. Et donc ça, évidemment, ça nourrit la confiance et c'est super important.
Et puis qui achète le prochain les yeux fermés parce que c'est un Gilles Vincent, parce
ouais,
qu'on a aimé.
Et en
parce
même
que...
temps, ça met la barre de plus en plus haut.
Ah, y a la pression, oui, hein? Y a la pression. Vous avez choisi le polar. Pourquoi le polar ? C'est Parce que c'est quelque chose qui se lit facilement, qui se vend très bien aujourd'hui, il faut le dire. Ou alors
non, mais ouais, il y a 10 ans, mais ça se vend, il y a longtemps que ça se vend bien, le polar. C'est un genre moi, que j'ai aimé lecteur. Je lis moins de polar aujourd'hui, mais j'ai beaucoup aimé le polar. Et puis c'est un genre voilà, qui peut être lu par, par un spectre de gens immensément large. Et on peut aborder tous les thèmes possibles par le polar. Moi, je m'intéresse à la marche, comme beaucoup de gens, un peu à la marche compliquée du monde. Vous y faisiez allusion avec le Moyen-Orient. Et le polar permet d'évoquer, de travailler, de dénoncer, de réfléchir, d'offrir une analyse, j'en sais rien, à tel ou tel sujet. Djebel, la guerre d'Algérie, ce pays qu'on assassine, la montée de l'extrême droite en France. Voilà. C'est pour ça, le polar. Alors, petit à petit, j'évolue. Je m'aperçois que je lis de moins en moins de polar et que je lis de plus en plus de littérature.
C'est vrai que quand on écrit du polar, c'est un peu difficile. Parce qu'on finit par voir un peu la construction assez rapidement, peut-être certaines ficelles, et il y a moins de fraîcheur dans la lecture.
Je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai tendance là, à avoir des désirs autres que ceux de la création ou de l'écriture d'un polar. Et c'est pour ça que je sors un roman là, la semaine prochaine.
Nous allons y venir, on peut déjà donner le titre, on le donnera plusieurs fois. Allez-y, comment s'appelle-t-il ?
Ça s'appelle « Dans la douleur du siècle ».
Bon, ça veut dire que... Ça veut dire, alors ça, c'est fini un peu le polar ou c'est une parenthèse ?
Alors, on ne se refait pas. Il y a des codes du polar dans ce roman. Parce qu'on ne se dégage pas d'un genre qu'on a travaillé pendant 10 ans comme ça. Donc il y a des choses du polar dans le sens où il y a de la surprise, il y a une quête de vérité. Il y a des choses
qu'on...
Mais c'est pas un polar.
On a ça dans beaucoup de romans, peut-être.
Mais c'est pas du tout un polar. Mais c'est pas du tout un polar, en fait.
Toujours avec un thème, un engagement. Parce que c'est vrai qu'on parlera de Voli tout à l'heure. Vous avez cité ce pays qu'on assassine. Bon, on dit des choses quand même dans ce pays qu'on assassine. Il y a une ligne directrice, il y a un engagement, on sent.
Alors, ce pays qu'on assassine, c'est d'abord le roman, pour moi, de mes territoires quand ils sont blessés. Moi, je suis un homme du Nord, j'ai vécu 33 ans dans le Nord. Et je suis aussi un homme du Sud, parce que j'ai vécu 12 ans à Marseille. Et pendant les élections régionales de 2015, je voyais mes deux terres que j'aime, la région PACA et là-haut, la région Hauts-de-France, sérieusement menacées. Et j'avais mal. Et j'ai eu envie d'écrire un roman, pas militant, pas avec des banderoles et tout ça, non. Un roman qui s'interroge sur, en fait, notre pays quand il va pas bien. Voilà. C'est pour ça que dans ce roman, il y a une enquête dans le Sud sur une affaire politique véreuse
bien du Sud-Est, comme toujours.
Et puis, on suit une jeune capitaine de police dans le Pas-de-Calais, Carole Vermeer, qui est une femme fragile pour des raisons de blessures d'enfance, et qui, elle, enquête sur le meurtre de deux Érythréennes, deux migrantes, dans un bois, là, à Hénin-Beaumont.
Tiens, ça me rappelle quelque chose.
Voilà, on suit ces deux femmes dans une tourmente qui est la tourmente de notre pays quand il ne va pas bien. Donc ça m'a vraiment intéressé de travailler là-dessus.
Donc ce ne sont pas véritablement des livres neutres. On ne raconte pas une histoire lambda avec une intrigue, un meurtrier qu'on découvre à la fin. Non, il y a autre chose.
En fait, je ne crois pas aux livres neutres.
Oui, ça n'existe pas.
Moi, je crois qu'on est habité par des émotions, par des choses qui nous touchent chaque semaine, chaque mois. Et qu'en fait, ça nourrit ou les sujets dont on a envie de parler, ou simplement notre émotionnel. Moi, ce roman, il commence le 2 septembre 2015, le jour où on a vu partout, sur toutes les télés du monde, la photo du petit Eylan sur cette plage en Turquie. Petit garçon de 3 ans. Ça commence comme, il commence là, le bouquin. Et il se termine le 13 novembre au soir. Donc on est quand même dans une parenthèse particulière dans notre pays. J'allais dire chez nous, mais je ne le dis plus. Ça. Et voilà, donc c'est un vrai roman, c'est une vraie fiction. Et, enfin, c'est un livre qu'on me dit souvent, à la fois très captivant et d'une certaine manière assez émouvant. Mais c'est un livre qui s'inscrit dans cette parenthèse, moi, qui m'a bousculé septembre 2015, novembre 2015.
Alors ce que vous dites dans ce livre, à l'évidence, ne peut pas plaire à tout le monde. Je vais dire qu'il plaît à beaucoup quand même. Hein. J'ai beaucoup aimé personnellement, mais il ne plaît pas à tout le monde. Donc ça veut dire que vous, quelque part, vous mettez un peu en risque. Vous vous coupez d'une partie de vos lecteurs potentiellement.
Je ne crois pas.
Non ?
Je ne crois pas. Je ne pense pas que les gens soient si bêtes. On peut... Bah oui, quand même. Les gens, moi, je lis Céline.
Oui.
Bon, et alors ? J'ai lu Brasillac. Est-ce que parce que je lis Céline, je cautionne Céline, l'homme, le citoyen, le salaud, le collabo, le dénonciateur, l'antisémite? Non.
Plutôt la belle
Mais
prime.
J'aime la littérature, ou du moins des grands, des pans entiers de ce qu'il a fait en tant qu'auteur. Donc voilà, non. Et j'aime Robert Desnos qui, pendant que Céline écrivait ses ignominies, Desnos, lui, était en train de mourir à Buchenwald. Donc, non, il faut dépasser tout ça. La littérature, on ne peut pas s'arrêter à un personnage parce qu'à un moment donné, c'est un enfoiré dans ses prises de position. Ça, c'est une chose, mais c'est son œuvre.
Ça veut dire que l'art peut être détaché de celui qu'il porte ?
Sans doute. Il y a une chose qui me rassure, c'est que je suis à peu près certain que je n'aurai jamais à lire un roman de Donald Trump.
Oui, ça,
et ça en fait, ça me fait plaisir à l'avance.
Lui, il est plutôt porté quand même sur des romans très courts qui s'appellent des tweets, c'est ça ?
Voilà, oui. Tout à fait.
Mais c'est une question que je voulais vous poser à la fin, mais je peux vous la poser maintenant, parce que vous avez parlé de Donald Trump. Ce serait un personnage de roman pour vous, ou pas ?
Non, pour moi, parce qu'en fait, quand on écrit un roman, on essaye en général d'éviter la caricature. Et lui, il est une caricature, à lui tout seul, de ce qu'il représente et d'une partie des Américains qu'il représente. Donc c'est pas possible, il est trop caricatural. C'est pas intéressant. Il y a pas assez de l'intérêt chez un personnage, c'est la nuance, les nuances. Dans ce pays qu'on assassine, il est question d'une jeune femme députée, une jeune députée du Vaucluse.
Serait-elle blonde par hasard ?
Elle s'appelle Manon Péan et elle est espoir prometteuse d'un parti qui s'appelle le Parti national de France. Voilà. Bah, j'en fais donc le portrait. C'est pas un portrait. J'en fais pas un portrait à charge. Ça m'intéresse pas. J'en fais un portrait nuancé. Moi, la nuance m'intéresse bien. Mais chez Donald Trump, pour revenir sur ce que vous disiez, où il n'y a pas de nuance. Donc le personnage, je trouve, est inintéressant, en fait.
Il est intéressant parce qu'il n'a pas de contenu.
Rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien.
C'est un président de merde, comme il y a des pays de merde, peut-être.
Ouais, bah c'est, mais en même temps, les gens l'ont élu. Hein, je veux dire, il a une légitimité.
Eh oui, c'est, il n'est pas fautif, Trump. Il est là parce que beaucoup ont voté pour lui, une majorité, au moins dans le système de comptage très particulier des Américains. Donc, après tout.
Je ne suis pas certain qu'il ne soit pas réélu. Hein.
Ah, il a d'autant plus de chances d'être élu qu'il n'y a personne en face.
Voilà. Donc, bon.
Des fois, c'est le vide qui fait l'homme politique.
C'est clair.
Qui lui permet de prendre sa place et d'y demeurer. Comment travaille Gilles Vincent ? Vous travaillez, vous avez des heures d'écriture, on pose toujours ces questions à des auteurs, mais c'est quand même intéressant, aucun n'a les mêmes manières d'être et de fonctionner.
Moi, je n'aime pas écrire le matin. Je ne sais pas, mon énergie le matin, je la mets à d'autres trucs, je vais courir, je ne sais pas, je fais des courses, bouquines, je m'occupe de mon fils. J'aime l'après-midi, j'aime le soir et j'aime le tard. Et là, donc c'est régulier, l'après-midi, le soir et le tard.
Et vous écrivez comment ? À la main, à l'ordinateur ?
À l'ordi. Mais j'ai toujours des papiers avec des crayons, parce que quand je prends des notes, quand je farfouille, j'écris à la main. Quand je fais mes plans de chapitres, je le fais à la main.
Ça me rappelle quelqu'un, tu vois.
Et dès que j'écris, en fait, j'écris à l'ordinateur, parce que c'est un outil génial, et puis on a une visibilité immédiate de son travail. Enfin, il y a quelque chose de clair. D'assez, voilà. Donc moi non, je me suis mis à l'ordi, donc je tape avec je sais pas, 4 doigts.
Oui, 5. Mais ça suffit, cerveau.
C'est bien.
Et vous pouvez écrire partout, dans tout lieu? Non. Ou non, il y a des lieux de prédilection?
Je peux écrire que chez moi, c'est atroce.
Ah oui?
Ouais, j'ai essayé ailleurs, ça marche pas. Donc quand je suis ailleurs, je fais autre chose, c'est-à-dire j'écris pas, je corrige, je relis, je prends des notes, je fais un plan, mais l'écriture, c'est-à-dire cette espèce de moment, c'est à la fois de l'intimité avec soi-même, et en même temps, moi j'ai besoin d'être, pour qu'il y ait des fulgurances, en fait, moi j'ai besoin d'être au calme, dans un truc qui m'apaise. Mais il y a des gens qui ont la chance de pouvoir écrire dans le train, dans les bars, partout. Moi non, je ne sais pas le faire.
Vous donc, écrivez vite ?
Plus vite qu'avant, mais non, en fait non. C'est parce que je ne suis pas très doué, donc en fait... Je pense que j'ai des bonnes idées, mais entre la bonne idée et le résultat qui me satisfait, Il y a du taf, quoi.
Ça veut dire que vous réécrivez, vous allez prendre quelque chose, vous allez le reprendre.
Ah,
le
là, 50 fois.
Ah, oui.
Ouais.
Ça ne coule pas d'un coup.
Il arrive que ça écrit, des fois. C'est bizarre. On est dans un état un petit peu étrange où ça fait une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure qu'on écrit. Puis d'un seul coup, ça écrit, moi je dis. Et là, en général, c'est des passages relativement courts. Il n'y a rien à toucher, quoi. Il y a des moments comme ça, divins. Mais c'est que des moments. Le reste, c'est, on en chie quand même. Hein. Enfin, moi, je râle, je peste. Voilà.
Oui, c'est dur, ça fait mal.
Oui, mais j'adore.
Un peu maso.
Non, mais j'y prends finalement beaucoup de plaisir.
L'inspiration, vous la trouvez où ? Les idées, elles viennent, c'est quoi ? C'est l'actualité ?
C'est l'actu ou des choses qui m'ont blessé. On dit souvent qu'écrire, c'est revenir toujours sur la même blessure. Et c'est vrai que je m'aperçois que, mine de rien, il y a des choses récurrentes. Et quand j'y réfléchis, qui sont des choses qui m'ont fait ou souffrir, ou peiner, ou bousculer. Voilà. Donc l'inspiration, c'est l'actu ou ce qui me fait mal.
Et où ?
Ou comment, où ?
Et à la fois et.
Et où ?
Et où, hein,
et où. Ouais.
Donc c'est quand même toujours quelque chose qui est profondément enraciné en vous. Et l'actu, c'est la manière dont vous la recevez. Ce n'est pas tellement l'actu en elle-même.
Puis après, il peut y avoir des choses qui m'intéressent qui ne sont ni de la blessure, ni de l'actualité. Par exemple, je suis en train d'écrire, parce qu'on me l'a demandé. On m'a demandé d'écrire un roman qui soit, entre guillemets, un polar qui se passe sur les collines de Lascaux il y a 17 000 ans. Et qui soit en même temps un roman sur le passage à l'acte du dessin. C'est passionnant.
Ah, c'est passionnant, mais ça va être un peu trapu, mais c'est intellectuellement passionnant.
Et bah là, je suis ni sur l'actu, ni sur des blessures personnelles. C'est vrai. Et du coup, j'ai l'impression d'être plus créatif que d'habitude.
Parce que là,
il faut tout inventer.
Tout inventer, voilà. Va sortir de votre
tout
imagination.
Tout inventer. Et pour moi, je trouve, là, j'y prends vraiment du plaisir.
Et un livre, pour vous, ça se construit préalablement ? Vous faites des plans très, très élaborés ? De moins en moins.
Parce qu'en fait, quand je démarrais, je parlais de la confiance en soi tout à l'heure, comme je n'avais pas trop confiance en moi, voire pas, j'avais besoin d'être rassuré par une construction à l'avance, un schéma, un chemin de fer, en fait, pour donner une image où chaque chapitre serait une petite gare qui amène au terminus.
C'est aujourd'hui, un peu stérilisant parce qu'on se bloque sur quelque chose.
Mais j'avais vraiment besoin de ça. Maintenant, j'ai le début, j'ai la fin à peu près, je sais en gros où je vais et j'y vais. Voilà. Donc, je travaille beaucoup l'amont, la documentation. Enfin, je veux posséder mon sujet. Voilà. Ça, c'est important pour être libre.
Oui. C'est un peu comme l'acteur, une fois qu'il a.
Ah, moi, faut que je
possède son texte.
Mon bureau, Jacques, en ce moment, c'est une caverne préhistorique. Et je rassure, je n'écris pas en peau de bête.
Oui.
On n'a pas poussé le truc jusque-là. Mais bon, quand je suis content, je me cogne la poitrine. Voilà,
et vous arrivez à vous mettre dans la peau d'un homme il y a 17 000 ans, ça va être quand même.
Mais c'est fascinant. C'est fascinant. Après, j'ai quand même appris que l'homme il y a 17 000 ans était très peu différent de ce que nous sommes nous. La seule grande différence, c'est l'acquis culturel. En fait, nous, on est imbibés d'histoire, de culture, de musique, de littérature, d'éducation, de 1500 choses, de millions de choses qui font ce que nous sommes. Et eux, ils n'étaient pas du tout imbibés de tout ça parce qu'il n'y avait pas eu ça. Ils étaient imbibés de la nécessité d'une forme de survie, point barre. Mais
ça veut pas
physiologiquement
dire qu'ils n'avaient pas
une vie, et mentalement, ils n'étaient pas très... 17 000 ans, c'est très court. Oui. Enfin, c'est pas si ancien que ça dans l'histoire.
Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas une vie intérieure, qu'ils n'avaient pas un questionnement, qu'ils n'avaient
pas
des angoisses.
Mais
des
pour
croyances.
Se mettre à faire Picasso, c'est une image. Ouais, il faut quand même qu'il se passe quelque chose de grave là, dans la tête d'un. Alors moi, je pense qu'un vrai artiste, c'est quelqu'un d'un peu à part.
Est-ce que c'est quelqu'un
et donc, ce mec-là qui a fait ça à Lascaux, évidemment, c'est un mec à part. Il n'était pas comme les autres.
Mais est-ce que ce ne sont pas des gens qui voient plus que d'autres, qui voient plus loin, qui voient autrement ?
Il faudra lire trois mois le roman qui va s'appeler « Noir sur Vézère ».
Noir sur Vézère. Bon, on va déjà le retenir, on a un peu de temps parce que...
Oui, on a le temps. Avril, mai, fin avril, début mai. Donc, quand même.
Quand même, mais on est productif, chez
Gilles Vincent. J'aime bien bosser, moi.
Oui, mais un livre, ça fait... Ça s'écrit, il n'y a pas de durée, ça dépend du livre, du thème, etc. Mais en moyenne.
Bah, normalement, 7-8 mois, mais moins si on travaille beaucoup plus, en fait. 7-8 mois tranquille, moins si on y va, quoi.
Bravo. Une pause musicale pour.
Chiche.
Si, on va la tenter. On va la tenter avec. C'est vous qui l'avez choisi, celle-là. Reggiani.
Ah, j'adore.
Pourquoi Reggiani?
Parce que mes parents l'écoutaient en boucle. En fait, ça berçait mon enfance.
Et donc puis. Une espèce de Madeleine de Proust musicale.
Il y a ça. Il y a aussi, je suis très sensible aux textes. Pas tous, mais beaucoup de textes écrits par Pierre Delanoë et Jean-Loup Dabadi. Il y a des choses extraordinaires. Il y a une émotion chez Reggiani, moi, qui me touche. Et puis, il m'a fait comprendre que même dans les choses grises et tristes, il y a du beau.
Alors, on écoute le beau.
Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits? Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit... Un chien hurle. Regardez bien Jean de Denfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage. Le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris. J'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue-leu-leu. Dès que ça flaire, une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups ont regardé vers Paris. Croatie, de Germanie, les loups ont regardé vers Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire. Les loups regardent vers Paris. Et Black, il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards. Alors, de loups, oh, 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 de loups sont entrés dans Paris. L'un par ici, l'autre par Ivry. De loups sont entrés dans Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire. De loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Crivoy. Il installa ses 10 femelles dans le maigre soir de Grenelle. Et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Alors, sans l'eau, oh, oh, sans l'eau sont entrés dans Paris. Soit par ici, soit par Ivry, sans loups sont entrés dans Paris. Cessez de rire, charmante Elvire, sans loups sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que 3 pattes, c'était un loup gris des Carpates qu'on appelait Carême Prenant. Il fit faire grâce ses enfants et leur offrit 6 ministères. Et tous les gardiens des fourrières. Alors, loups, oh, oh, les loups ont envahi Paris. Soit par ici, soit par Ivry, les loups ont envahi Paris. Cessez de rire, charmante Elvire. Les loups ont envahi Paris. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des mille et des cent faire carousse, yes et bonbons dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et alors, oh, 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 les loups sont sortis de Paris, soit par ici, soit par ici. Les loups sont sortis de Paris, tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris. J'aime ton rire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris. Les loups, les loups, les loups, les loups.
Voilà, nous retrouvons non pas un loup, mais si, un loup de la littérature, après Serge Reggiani. Le choix de notre invité, Gilles Vincent. Alors Gilles Vincent, on en parlait au micro, 14 livres déjà à votre actif.
Voilà, le, Dans la douleur du siècle et la 14e publication.
On va y venir. Alors les autres, c'était quoi avant? Quelques titres. Alors, on a parlé du...
Alors Jebel, le premier, c'est Jebel. Oui, là-dessus, on suivi 5 polars aux éditions Gigal à Marseille.
Voilà, qui est un Marseillais connu. Et vous avez, alors parce qu'il faut aussi parler des éditeurs, l'auteur... Il fait son truc et après il y a une...
Ah mais c'est important l'éditeur.
Oui, c'est fondamental. Il y a une foultitude de gens qui vont s'emparer de ce livre. L'éditeur, ça a été facile à trouver la première fois pour vous?
Non.
C'est pas réussi au premier coup?
Ah non, très compliqué. Et très très compliqué. Ce serait trop long à raconter, mais ouais, c'est un chemin de croix ça. Si on n'est pas parisien et si on n'est pas dans des réseaux, chaud devant. Donc ouais, déjà être publié, c'est une victoire. Je veux dire, vraiment publié. On ne paye pas pour être publié, on n'est pas à compte d'Otana. Publié.
Non, on est publié.
C'est une
oui.
victoire. Jebel, c'était vraiment une victoire. Et donc, il y a eu 5 romans chez Gigal, avec la commissaire Aïcha Sadia. Un 6e polar chez Inuit, ce pays qu'on assassine. Édition Inuit à Sermon-Lasse, près de Pau. Qui font, entre parenthèses, un super boulot. Ensuite,
spécialisé dans le polar plus que...
Mais ils publient souvent du texte court, mais par des pontes du polar. Quand je dis des pontes, Jean-Bernard Puy, Marc Villard, Pascal Dessin, Carlos Salem, qui écrivent souvent des nouvelles ou des novellas pour Inuit, rarement du roman.
Bernard Puy, oui, que j'aime bien et que j'entends régulièrement au papou dans la tête sur France Culture. Il faut absolument écouter, c'est ça. Un plaisir. Ouais.
Donc il y a eu ces 6 polars. Le 7e, celui qui arrive, donc ça fait 7. Puis après, il y a 3 polars ados aux éditions Paul et Mike pour les adolescents. Ça fait 10.
Comment on travaille des polars ados? C'est spécial, c'est un ton particulier?
Il faut se mettre... Il y a des codes. C'est-à-dire, il y a deux choses qui sont très, très différentes du travail quand on écrit pour un adulte. Parce qu'il y a deux choses absentes. C'est le traitement de la violence, qui évidemment n'est pas... pour moi, n'est pas du tout le même. Et puis, tout ce qui est rapport avec la sexualité est peut-être présent si c'est nécessaire dans un roman. Mais moi, quand j'écris pour des gamins qui ont 11, 12, 13 ans, c'est absent de mes romans.
Et comment on arrive à se mettre dans la peau d'un ado, savoir ce qui les intéresse?
Parce que j'en ai eu 2. Parce que j'anime des ateliers d'écriture en collège toute l'année et donc je suis entouré d'ados une bonne partie de l'année. Et puis parce que sans doute le petit garçon que j'ai été n'est pas bien loin quand on creuse. Donc j'y renoue assez facilement. Donc j'ai écrit 3, voilà. J'ai écrit un recueil de nouvelles. Une petite maison d'édition à Bordeaux qui avait un titre assez rigolo. Ça s'appelait « Les essuie-glaces fatigués rendent les routes incertaines ».
Ah, c'est
joli. Et après j'ai écrit un petit roman il y a quelques années qui s'appelle « Flamenco ». Voilà, et dans la douleur du siècle, et donc le 14e.
Sur lequel on va venir. Vous faites des gros tirages en moyenne ou subvariable?
Non. Moyen. 2000, 3000.
Oui, c'est déjà bien.
3005.
Par les temps qui courent.
4000.
Alors, le livre actuel, donc il n'est pas encore sorti, il n'est pas dans les
bacs. En fait, il commence à arriver en librairie. Donc, il arrive aujourd'hui, il arrive la semaine prochaine. On va dire d'ici 15 jours, il sera partout.
Alors, Christian Moreto, parce que je ne vous ai pas tout dit, mais mon camarade Christian Moreto est venu nous renforcer aujourd'hui. Et Christian a bien sûr plein de questions, mais allez-y.
Mais c'est avec plaisir. Et dans votre titre, dans la douleur du siècle, moi, ça me fait rebondir sur un film que j'ai vu tout récemment en avant-première chez nos amis de l'ABC à Toulouse. C'est La douleur, le film, la fiction tirée de l'ouvrage de Duras et très magnifiquement interprété par Mélanie Thierry d'Emmanuel Finkiel.
Moi, c'est un des livres qui m'a le plus bouleversé depuis 10 ans.
Alors, vous allez me sabrer ma rubrique littéraire, puisque c'est le choix que vous avez fait.
Un roman d'une force, c'est un roman qui est composé de 3 nouvelles. Et la première nouvelle, elle est, mais c'est terrible, quoi. Voilà. Et alors, le hasard fait que j'écris un roman donc, qui s'appelle « Dans la douleur du siècle ».
Alors, c'est un hasard ou c'est...
En fait, c'est un hasard. Pas oui et vraiment. Non. Moi, je suis un petit-fils de déporté. Donc, maman était une enfant, une fille de déporté. On a, à la maison, il y a eu... C'est aussi un roman sur l'héritage, mais dans le sens, pas comme on l'entend forcément d'emblée. Hériter, c'est hériter peut-être un peu d'argent d'une maison. Mais hériter, c'est aussi hériter de l'histoire des siens. Et c'est parfois hériter d'un fardeau à porter et qui peut rendre la vie douloureuse, compliquée, etc. Et donc, c'est un roman qui traite aussi de ça. Comment on grandit, comment on arrive à se construire si on doit porter des choses qui ne nous appartiennent pas, qui appartenaient à nos parents et qui sont franchement lourdes à porter. Donc, c'est un roman là-dessus. C'est un roman sur... la difficulté d'être un rescapé. Comment échapper à la culpabilité qui, d'un seul coup, vous enveloppe, parce que pourquoi vous êtes le rescapé et pas les autres ?
C'est une culpabilité ou un soulagement ? Ça dépend des gens.
Ça dépend des gens et ça dépend des moments. Donc voilà, c'est un roman sur le pardon, c'est un roman sur l'oubli, c'est un roman sur la collaboration. C'est un roman sur... Alors, il est très difficile d'être un enfant de rescapé, mais il est aussi difficile d'être un enfant de coupable. Et donc, les deux personnages principaux de ce roman, Samuel, lui, il est le fils d'un rescapé. Et Marie, elle est la fille unique de celui qui dénonce, enfin, qui a dénoncé. Et c'est pas simple non plus d'être l'enfant d'un dénonciateur, d'un collaborateur. Donc, ces deux-là... vont ensemble à la recherche de la vérité sur une tragédie qui ressemble trait pour trait à la tragédie des enfants d'Izieux dans la région lyonnaise en 1944. Voilà. Et alors, le truc rigolo, enfin, entre guillemets, le hasard. Donc, j'écris dans la douleur du siècle, la douleur d'être rescapé des camps de la mort. Et puis, mon personnage, le Samuel, quand il est dans le train, il lit un bouquin. Il lit La douleur de Duras. Et le bouquin sort la semaine où sort l'adaptation du film La douleur. Je peux en lire juste quelques lignes.
J'allais vous en prier, dans La douleur du siècle, donc par Gilles Vincent.
En fait, le personnage monte, il est tôt le matin, il s'installe dans un train. Entre l'aluminium anodisé des accoudoirs, les gens se sont installés. Romans ouverts, journaux dépliés, ordinateur en recherche de réseau ou plus simplement une tempe contre la vitre à tenter de retrouver trace de la nuit quittée trop tôt. Samuel Adler s'excuse, fait se lever la dame du 77, il coince le sac entre ses jambes, baisse la tablette, il pose son journal, ouvre le livre entamé la veille. Un roman de Duras, La douleur. Une chronique intérieure au paysage dévasté, un pays qu'on achève, l'Allemagne, des portes qui s'ouvrent sur l'horreur des camps, le pardon à apprendre, l'impossibilité de l'oubli. Il sait que de ce renvoi à l'histoire des siens, il ne sortira pas indemne. Ça n'est pas la première fois. L'aventure familiale est devenue une histoire encombrante, faite de héros, de martyrs, de rares survivants. Embarrassante parce qu'elle prend toute la place comme un grand corps dans un petit lit à partager. Il arrive souvent que le « là » de l'existence soit donné par la vie des autres, par l'exemplarité de ceux qui nous ont précédés. Mais pour Samuel Adler, c'est la mort des autres qui a donné le ton, le rythme accablant des cœurs arrêtés. Il regarde sa montre, vérifie sur son billet, le train arrivera en gare de Pau à 13h44.
Voilà, on est sur un passage du dernier livre de Gilles Vincent. Normalement, ça doit quand même vous donner envie d'en savoir plus. Et vous allez le trouver dans les jours prochains. Dans les
voilà.
Jours, c'est ça.
Alors à Toulouse, parenthèse, l'endroit où il arrivera le plus tard, c'est la FNAC. Pas à cause de la charmante Astrid, responsable de l'alité à la FNAC Wilson, à cause du fonctionnement même de la FNAC qui... On doit passer par une centrale d'achat, la FSL, tout oui, ça prend du temps.
On n'achète plus de livres à la FNAC voilà. Ici. Hein, on va dans les libraires, les vrais. Bon, la dernière fois que je suis allé à la FNAC, c'était pour acheter un livre. J'ai acheté beaucoup de livres à la FNAC. Je suis rentré, j'ai vu des instruments de cuisine qu'ils vendaient. Donc j'ai fait aussitôt demi-tour et je suis reparti. Ouais. Il y a 30 ans, je crois, on disait la FNAC agitateur d'idées. Maintenant, ils agitent les sauces. Alors, on va chez Ombre Blanche. On va chez Christian.
Terra Nova. Il y a la librairie de la Renaissance. Priva, la librairie... Voilà. Floury, Priva, voilà, qui est redevenue une librairie indépendante parce qu'elle avait été rachetée par chapitre.com à une époque. Et ça, c'est très bien raconté dans un ouvrage par Isabelle Desesquelles. Et
voilà. À découvrir la librairie Ellipse, exceptionnelle librairie à la frontière de Toulouse et de Ramonville, à droite, juste avant le McDo. Vanessa, super libraire.
Alors, allez à la librairie, mais n'allez pas au McDo.
Voilà. Allez dans les librairies, surtout, allez rêver, allez regarder les livres, allez les toucher, allez faire œuvre de curiosité et de passion. Et vous verrez, c'est toujours un grand, grand plaisir. Alors les lecteurs, vous les voyez, parce que souvent l'auteur, bah, il est dans son coin, il fait son truc. Mais vous, vous avez une particularité, c'est que vous faites beaucoup de salons, beaucoup de signatures.
Moi, je fais le service après-vente aussi.
Voilà, je n'osais pas l'appeler comme ça, mais c'est un peu ça.
C'est un peu ça. D'abord par envie, parce que je n'ai pas envie de rester tout seul dans mon bureau pendant toute l'année. Ensuite, j'aime les gens et c'est l'occasion de rencontres multiples. Et c'est vrai que je fais énormément de salons, de dédicaces, de rencontres. Pour info, l'année dernière, j'ai dédicacé 2083 romans.
Oui, c'est depuis que vous avez une signature Elbow, comme on
voilà.
dit. Hein,
et donc, c'est beaucoup. Mais non, j'aime ça, j'adore ça.
Et puis, pour vous avoir vu dans cet exercice, vous y excellez quand même.
Ah mais non, mais
on sent l'ancien commercial
non,
quand
non,
même.
Non, puis je prends vraiment plaisir à rencontrer les gens, à partager avec eux 30 secondes, 2 minutes, à les retrouver parce que les gens sont fidèles en lecture, je trouve. Quand ils aiment, ils sont ravis de vous retrouver l'année d'après au même endroit.
C'est vrai qu'ils reviennent. Une fois qu'ils ont aimé, ils rachètent le suivant, les yeux fermés, parce que effectivement, on a fidélisé et puis on a un dialogue avec eux. Quelle est la tranche d'âge de votre lectorat ? On peut le dire ou c'est très variable ? Parce que quand on va dans les salons du livre, on voit quand même beaucoup de dames d'abord qui lisent, apparemment plus que les hommes, et des dames qui ont déjà un petit passé d'âge mûr. Un peu.
Je dirais 35-80. Enfin,
oui, bah, c'est comme Tintin.
Non, 77. Mais bon, enfin, d'abord, c'est vrai, la majorité de lectrices, mais parce que je pense que les hommes lisent d'autres choses, et les hommes ne se lâchent pas tous les hommes, mais une majorité d'hommes n'osent pas se laisser embarquer par un roman. Il y a quelque chose de romanesque là-dedans qui les gêne. Et les femmes, une majorité d'entre elles, ont envie qu'on leur raconte une chouette histoire et donc se laissent embarquer par le roman. C'est sans doute pour la raison pour laquelle 85% environ des gens à qui je dédicace un bouquin sont des gens, les femmes, et 15% des hommes. Donc oui, 30 ans, j'ai beaucoup des jeunes profs, des instits, quelques étudiantes, des mamans, des grand-mères, des arrière-grand-mères. Moi j'aime bien aborder des sujets sérieux, mais je veux que ce soit abordable. Enfin, je veux que ce puisse être lu par l'immense majorité des gens. Donc j'essaye... C'est pas facile d'ailleurs ça, d'aborder des sujets complexes et d'en parler de manière simple.
Mais c'est ce que ne sait pas faire M. Macron, puisqu'il a une pensée complexe, mais il ne sait pas trop nous la rendre simple.
Ça dépend des jours.
Ça dépend des jours, oui. Ah, il a une femme qui était, je crois, professeur de lettres.
Et de théâtre.
Et de théâtre, donc ça doit aider quand même. C'est bien
doute.
D'avoir eu ce passé. L'éditeur, ah pardon Christian.
Non, c'est pour cela que de temps en temps il fait du cinéma.
Je ne rebondirai pas là-dessus. L'éditeur, c'est un personnage important pour vous dans votre façon d'écrire. Il y a une vraie relation avec l'éditeur. On se parle, on relit, il vous donne des conseils.
C'est un personnage primordial. L'éditeur, c'est le premier, et ça c'est super important, qui vous fait confiance, qui croit en vous, en votre capacité de travail, de création, qui croit en la qualité de ce que vous allez faire. Donc, ouais, pour moi, c'est hyper important. C'est vraiment hyper important. Alors, j'ai rencontré des éditeurs avec lesquels je me suis globalement bien entendu. Mais, et ce n'est pas du tout une critique à leur encontre, pas du tout, c'est un peu comme en amour. En amour, il faut faire, à un moment donné, chacun attend la rencontre, la rencontre. Et ben, moi, en tant que romancier, la rencontre, la vraie grande rencontre avec un éditeur ne s'est jamais produite. C'est-à-dire, je travaille avec des gens avec qui je m'entends bien, et eux, comme moi, on sait que ce qu'on fait là ensemble est une étape, n'est pas un truc fini. C'est une étape.
Ah oui, vous avez été un peu inconstant, peut-être par force, mais vous avez eu plusieurs
éditeurs quand même. J'ai pas cinq romans chez un éditeur.
Il y a eu
voilà, là, c'est le deuxième, Gallier, trois. Mais la rencontre avec un éditeur, la grande rencontre, comme une grande rencontre amoureuse, n'a pas eu lieu.
Vous avez parlé tout à l'heure d'ateliers d'écriture, donc vous allez apprendre à des gens à écrire. Est-ce qu'on peut apprendre à des gens à écrire ? Est-ce qu'on peut peut-être susciter une curiosité, une envie, un plaisir, mais leur apprendre ?
En fait, je ne leur apprends pas à écrire, parce que ils ont les enseignants pour ça. Je leur apprends, j'essaye de leur faire ressentir que à la lecture et à l'écriture peut être synonyme de plaisir, en fait. Parce que la génération d'aujourd'hui, les 11, 12, 13 ans, ils sont scotchés à leur portable et au reste, le portable étant un ordinateur ambulant, une télé ambulante, voilà. Donc, moi, je les fais décrocher de ça pour leur montrer et leur faire vivre une expérience où, au sortir de cette expérience, il se soit passé deux choses en eux. Un, ah, je suis capable de faire ça. Et deux, ah ouais, on peut se régaler, en fait, avec des mots. Écrit, tapé. Voilà. C'est le but est là, moi.
Il faut qu'ils sortent d'un espèce de confort et d'une passivité, parce que le portable, c'est la passivité absolue. Donc, il faut faire marcher un peu l'appareil cognitif, chauffer les neurones. C'est pas évident pour certains. Ceux qui en ont, tout le monde n'en a pas.
Ouais. Oui, non, mais si tout le monde en a. Nom. Moi, je travaille là en zone, hors test, ces zones rurales ou semi-rurales. On fait du super boulot. Enfin, les gens, on arrive à sortir, de faire sortir. Ils ont en eux, en fait, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et comme vous disiez, ils sont tombés dans une passivité qui fait que ce qu'ils ont en eux n'a plus l'occasion de sortir.
Christian Moreto.
Oui, vous parliez de passivité. C'est peut-être une passivité qui est voulue aussi parce qu'il ne faut pas trop ouvrir les esprits. C'est dangereux. Ça peut être. Dangereux pour un certain pouvoir en tous les cas. Mais autre question aussi que j'avais envie de vous poser. Donc, vous avez écrit un certain nombre de polars. Est-ce que vous avez été touché, approché, par exemple, par le milieu du cinéma pour une adaptation ?
J'ai le premier roman que j'ai écrit, Jebel, qui a été optionné plusieurs années consécutives par Isabelle Adjani, qui finalement, sans doute, laissait tomber, en fait, parce qu'elle a eu sans doute d'autres priorités. Voilà. Après, c'est pas mon rêve. Enfin, si ça arrivait, je serais ravi, mais c'est pas le truc auquel je pense tous les jours. Même si je sais que ça peut donner un sacré coup de fouet. Mais pour être honnête, si un jour je devais être consacré écrivain, je préférerais l'être uniquement par le livre que par à cause du cinéma, quoi. Dans le plaisir, j'ai envie. Alors, c'est pas que j'ai envie, j'ai beaucoup d'admiration pour Pierre Lemaitre, qui est un super bosseur, qui a écrit des polars scotchants, Alex, Robe de mariée, etc. Et un jour, il a décidé de s'échapper des codes du polar. Et il a écrit un roman, Au revoir là-haut. Il a le Goncourt, c'est une véritable consécration. Et le cinéma vient après. C'est-à-dire que ce n'est pas le cinéma qui le rend célèbre. Il est, quand je dis célèbre, on s'entend, c'est son travail d'écrivain. Et ça, ouais, ça.
Et c'était
ça. Comme on dit, je kiffe.
Et c'était un peu une revanche d'ailleurs pour tous les gens qui font du polar, un peu de littérature, parce qu'il l'a dit, c'est la revanche des polardeux sur les autres. Je suis un homme venu de l'univers du polar, j'écris un roman, j'ai le Goncourt chez Actes Sud, on rappelle,
ouais, hein, nos amis de, Albin Michel, d'Arles. Albin Michel.
C'était pas.
Ah non,
c'était,
non, c'est Albin
non,
Michel.
Je crois que c'était Actes Sud, d'après comme quoi. Ouais. Albin Michel, et il a le Goncourt, ouais. C'est quand même pas rien.
C'est génial. Après, moi, il m'arrive souvent dans les salons de croiser des gens qui me disent « Ah non, surtout pas, j'aime pas le roman noir. » Et je dis « Ah bon, c'est dommage. » Donc vous n'avez pas aimé Victor Hugo ou Les Misérables, vous n'avez pas... Comment ça ? Mais si, Les Misérables, c'est quand même un des premiers grands romans noirs. Noir socialement, la détresse, la misère du 19e siècle, l'injustice, mais qui est condamné pour rien, Jean Valjean, le flic pourri, Javert, la misère, on parle de Cosette, rigolote, Cosette, et Fantine, c'est 10 fois pire. C'est un véritable roman noir, Les Misérables de Victor Hugo. Ah ouais, oui, c'est vrai, j'avais jamais vu comme ça. Voilà. Donc le roman noir, depuis longtemps, en fait, a ses lettres de noblesse.
Christian.
Oui, le polar, justement, est beaucoup plus, finalement, même s'il y a cette fiction qui précède souvent la réalité, il est bien ancré dans le social, dans vraiment la réalité. Après, il y a toute l'imagination et l'imaginaire de l'écrivain.
Il est peut-être plus ancré sur les romans américains, où là, vraiment, on a quand même... C'est très noir, les romans noirs américains. Hein. Toujours des flics pourris dans une société qui les rejette, ils sont alcooliques. C'est un peu dur. Hein,
mais je pense que les polars sont à l'image de la société dans laquelle on vit, où l'auteur vit. Les Américains, ils n'inventent pas le truc. Ils racontent leur pays. Moi, je raconte dans ce pays qu'on assassine, mon pays.
C'est une peinture sociale pour vous.
Ouais, humaine et sociale.
Aujourd'hui, je l'ai dit en démarrant, on fait passer les livres autour de la table. Je l'ai dit en démarrant, aujourd'hui, vous avez tout arrêté, vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, vous l'avez précisé, vous ne vivez que de votre plume ou de votre touche, on devrait dire maintenant.
Non, j'ai quand même une activité professionnelle, mais qui est, une espèce de petit mi-temps, mais qui a un rapport avec la littérature, puisque je diffuse des collections de livres auprès de libraires pour 2 éditeurs, et ce, 9 jours par mois. Ce qui est quand même conséquent.
Oui, c'est bien. Mais
donc ça,
ça veut dire que vous pouvez vivre aujourd'hui de votre travail de création.
Ouais, voilà.
Ça c'est quand même. Il y a pas beaucoup de gens en France qui peuvent dire ça.
Oui, enfin c'est assez chiche. Hein. Je veux dire, c'est pas non plus on roule pas sur l'or, quoi. Mais on mange et puis on n'a pas froid et puis voilà, c'est déjà bien. Mais c'est vrai que les gens qui vivent de façon aisée dans le polar, il y en a pas 10.
Oui. Ah non.
Non,
il y a beaucoup de gens qui en écrivent mais qui ont d'autres métiers à côté. Et je pense même qu'ils seraient bien en peine de, s'ils arrêtaient leur métier, s'ils avaient fait ce que vous avez fait, qu'ils seraient bien en peine de tirer leur épingle du jeu, hein, c'est clair. Et les gens avec qui vous faites des ateliers d'écriture, vous avez dit, c'est des jeunes, des collégiens ?
Des collégiens, souvent des quatrièmes. Souvent des quatrièmes.
Pourquoi ?
Parce que la troisième, c'est une classe d'examen. Ouais, souvent on me propose de travailler des quatrièmes, qui sont déjà une petite maturité, mais ils sont pas. Voilà. Et c'est vrai qu'on fait vraiment du super boulot. Là, par exemple, l'année prochaine, on va écrire. L'année scolaire prochaine, on va écrire ensemble des correspondances de guerre du front de 1918. Et donc, les enfants, je vais leur faire travailler d'une part la lettre, le courrier. Et puis, les deux pendants, c'est-à-dire il y a à la fois le soldat qui est au front. Et un soldat, il écrit à qui ? Il peut écrire à sa mère, il peut écrire à sa fiancée, il peut écrire à son pote, il peut écrire à son père, il peut écrire à son instituteur, au curé de son village. Voilà, et ça va être un exercice intéressant parce qu'on va à la fois, c'est transversal, on va travailler l'histoire et en même temps la littérature et en même temps l'épistolaire. Je reviens 2 secondes sur ce qu'on disait tout à l'heure. Écrire, c'est sociétal, c'est s'emparer de sujets. Moi, je ne suis pas un citoyen... j'en ai marre de la caricature. Je ne suis pas un mec anti-flic, par exemple. Il y a des gros cons chez les flics. Il y a des flics qui font des choses odieuses. puis il y a des flics formidables qui font un boulot formidable. Et c'est souvent, c'est sans doute le métier ou un des rares métiers en France où ils ont le nez tous les jours dans le pire de notre société. La violence, le viol, les enfants maltraités, enfin, au secours, quoi. Et donc, dans le roman Ce pays qu'on assassine, j'oublie pas qu'avec les agriculteurs, c'est la profession où les gens se suicident le plus. C'est un signe d'un gros malaise, quoi. 10 lignes. En fin d'après-midi, elle, c'est une capitaine de police, elle a garé la Mégane de service sur le bas-côté, a fait quelques pas dans l'herbe, rasant le talus. Dans l'air frais du soir qui chute, elle a observé les champs de mottes sombres, au loin les buttes de terre séparant les parcelles, perçant la ligne d'horizon, la cime irrégulière des terrils. On est dans le Pas-de-Calais. Dans la brume semblant s'élever de terre, elle a cru voir un monde en voie de disparition, un naufrage programmé, inéluctable. Elle s'est assise sur un parpaing laissé là, à songer aux dernières semaines. La vérité est parfois une impasse. C'est ce qu'elle a pensé. L'honneur, une balle dans la bouche.
Il décrit bien, mais il lit bien aussi, hein, finalement.
Et voilà, donc, ouais, on s'empare quand on écrit. Enfin, moi, quand je m'empare de sujets, et la police, voilà, je la défends aussi dans ce cas-là de bien, et quand elle fait bien les choses. Moi, de voir des flics brûlés quasiment vivants dans leur estafette et taper un coup de fil, stop.
Oui, c'est... On est d'accord. On va arriver au terme de je ne vais pas vous infliger la séquence littéraire. On a beaucoup parlé de livres et ce dont on a parlé me paraît essentiel. Donc, moi, je vous donnerai un conseil de lecture à notre prochaine émission. Quand on écrit, on est seul. Vous êtes dans votre, devant votre bureau, dans votre caverne, là, on l'a dit. La solitude, ce n'est pas pesant. Il y a aussi une angoisse parce que ce que vous allez produire, vous ne savez pas comment ça va sortir, comment ça va être reçu, ça peut être un flop. On doute ou on doute pas.
Oui, on doute. L'angoisse, non. Mais on doute. Après, à force de travailler, on sait quand ce qu'on a fait est bien. Donc après, on n'est pas responsable de la reconnaissance. Mais bon, si déjà...
Non, on n'est pas responsable, mais quand on en vit, on l'attend, on la souhaite.
Ça, c'est clair.
Parce que là, on dépend de ça.
Oui, non, mais il y a une...
Est-ce que là, ce n'est pas une pression supplémentaire qu'on n'a pas quelqu'un qui écrit qu'il y a un autre job à côté dont les fins de mois sont assurées?
Ah ben c'est sûr. Moi, si le bouquin ne marche pas, je fais quoi l'année d'après, quoi? Comment on fait? Donc, faut que ça fonctionne. Mais en même temps, il ne faut pas non plus se trahir pour plaire. Je veux dire, moi, je sais qu'il y a certains types de littérature que je pense que je serais capable d'écrire, qui se vendraient sans doute mieux que ce que je fais. Mais c'est des choix. Qu'est-ce qu'il faut faire, là? Il faut se trahir soi-même sur l'autel de je ne sais pas quoi? Ou est-ce qu'il faut rester fidèle à ce qu'on est, à ses valeurs, à ce qu'on aime, à ce qu'on a envie de partager, de dire, parfois de crier, au risque de rencontrer moins de lecteurs? Moi, j'ai fait le choix de la deuxième option. Et du coup, je vais plus au ski ni au Club Med, mais quand je me regarde avant d'aller me coucher, je me dis bon allez, je peux me faire un petit clin d'œil, quoi.
Merci Gilles Vincent,
merci
d'être venu, parce que vous n'êtes pas Toulousain.
Un mot.
Oui, allez.
10 secondes. Hier soir, soirée Rotary.
Oui.
Ils ont une idée très sympa. Le 24 juin, ils font à Toulouse le Duck Race. 20 000 canards en plastique vont être vendus dans toute la ville. 3 euros le canard, 60 000 euros. Une course de canards va être organisée le 24 juin sur la Garonne. Et les bénéfices de cette histoire vont à une assoce qui est quand même sympa. Ça s'appelle les Restos Bébés. En fait, c'est les Restos du Cœur pour toutes les mamans seules, sans travail, à la rue, qui n'arrivent plus à se nourrir, ni elles, ni leurs petits-enfants. Donc, 24 juin, Rotary Club et Rotaract.
Alors, je garde le papier que vous me tendez. Merci et soyez certains que nous le rappellerons. Merci Gilles Vincent, c'était Cap et Cap, une émission de Jacques Laverdi avec à la technique Jean-Louis Arzac. La semaine prochaine, on parlera peinture avec un peintre toulousain et qui, pour être toulousain, n'en est pas moins exposé dans un certain nombre de pays du monde. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur la page Facebook Occitanie Première ainsi que sur le site de la station. N'oubliez pas, rediffusion de l'émission Demain, mardi, à 12h, qu'on se le dise. Merci Christian Moreto d'être resté, d'avoir participé.
Avec plaisir.
Bonne semaine à toutes et à tous. Adeu.